Depuis leur arrivée sur le plateau des Petites Roches et jusqu'à aujourd'hui, les établissements hospitaliers de Saint-Hilaire-du-Touvet ont concentré de nombreuses histoires et expériences de vie. À l'époque, des paquebots vous proposent de découvrir les témoignages en mosaïque de ceux et celles qui ont fait la vie des établissements. Pour ce deuxième épisode, vous pourrez entendre le témoignage de Jean-Pierre, qui, à l'âge de 19 ans, a passé 3 ans au sanatorium des étudiants. C'était dans les années 50. Jean-Pierre nous explique à quel point ce passage au sanatorium des étudiants a influencé le jeune homme qu'il était dans sa construction.
J'avais exactement 19 ans et demi, 20 ans, quoi. J'avais déjà fait un an à Paris, et qui était une année assez sombre pour moi, où ça n'avait pas été bon. Et puis, je commençais des études d'architecture. Et puis, quelques mois après, on a découvert qu'en effet, j'étais atteint de tuberculose. Alors, je t'avoue que quand j'ai appris la nouvelle de ma maladie, moi, je l'ai ressenti comme ma dernière heure venue. Parce que, si tu veux, dans le climat, dans le monde dans lequel j'étais, c'était un monde relativement privilégié, et cette perspective, la perspective de cette maladie, c'était, c'était mortel, on va dire, comme ça. Je peux dire que j'ai eu la chance d'être tuberculeux après la découverte des antibiotiques, qui était quand même un remède qui a permis d'éradiquer la maladie, hein, et sans trop de séquelles. Donc, avant, c'était comme ça, on attendait. Et la seule médication, la thérapie, c'était le repos. Le repos dans une ambiance et un climat particulier. Par ailleurs, moi, je quittais le pays de Natal, un pays qui était à la Tunisie, et qui pour moi était un pays perdu. En 1956, c'était la fin c'était l'indépendance de la Tunisie. Tout ça, ça a fait que j'étais dans un climat d'un état de morosité assez important, et que ça a peut-être eu une influence sur ce qui m'arrivait, quoi. Bon. On m'a envoyé en Sana. J'ai fait d'abord une précure, ce qu'on appelle une précure à l'hôpital de la cité universitaire, juste pour cadrer les choses, et puis on partait tout de suite en Sana. Donc moi, je suis arrivé à Grenoble, et puis de la plaine du Grésivaudan, je suis monté jusque sur les hauteurs de la Chartreuse, sur le plateau des Petites Roches. J'ai pris le train, je suis arrivé à Grenoble, puis après un quart poussif m'a monté là-haut. En plus, j'étais absolument novice, quoi. Je connaissais pas, j'avais jamais vu la neige, par exemple. Donc, c'était vraiment un gros décalage, quoi, entre ce que j'avais vécu jusque-là puis ce qui m'arrivait. Et en arrivant là-haut, dans les derniers lacets, tout d'un coup, après le passage du village de Saint-Hilaire, sur les Petites Roches, je découvre à la fois, en même temps, la neige, et puis cet immense bâtiment. Et j'avoue que j'ai été un peu surpris, hein. J'ai été même impressionné, comme un novice qui découvrait pas mal de choses. Et j'ai eu une impression très forte devant cette barre de bâtiment, parce qu'il y avait le SANA des étudiants, mais il y avait également le SANA du département du Rhône et le SANA des mines. Le tout établi sur une ligne de 1000 mètres qui était l'altitude jugée bénéfique pour soigner nos poumons. Et devant ces bâtiments, d'abord, c'était une barre, quoi, très impressionnante, au pied de la falaise de la Dent de Crôle. Et moi, j'ai été très impressionné par tout ça. Et j'ai compris, comme ça, que j'allais trouver quelque chose d'important, quoi. J'allais vivre quelque chose d'important dans ce milieu-là. Voilà. On dirait presque un bâtiment, tu sais, du Tibet, là, tu vois. C'est ouais. Maintenant, à l'intérieur, c'était des plans très fonctionnels, oui, c'est vrai.
Thank you.
À l'intérieur, je me suis retrouvé au milieu de tant d'individus qui m'étaient inconnus. Mais comme, je suis peut-être timide, mais je ne suis pas farouche, donc la promiscuité ne m'a pas gêné longtemps, donc je me suis assez bien dessus. Et les premières personnes que, si tu veux, j'ai rencontrées, c'était mes voisins de chambre. Je m'appelle les Couturnes. Alors j'ai donc fait la connaissance de Pierre Laroche et d'une Guyane Mingolkan. L'un était haïtien, déjà assez âgé, et qui parlait d'abondance, un français très châtié. L'autre était vietnamien, beaucoup moins disert, mais son mutisme peut-être pouvait s'expliquer par les méfaits de la guerre coloniale, hein, on va dire ça comme ça. Toujours est-il que là, j'ai compris que j'étais arrivé dans un monde cosmopolite et ouvert. On passait toute la journée ensemble. Donc on avait forcément un contact assez intime. Ouais. Hein. Et comme je te l'ai dit, l'un était haïtien, il parlait beaucoup. Il était très intéressant. Malheureusement, il est mort, parce qu'il était déjà âgé, et le deuxième était carrément muet, il jouait de la guitare tout le temps, et il était très... Donc je n'avais pas un contact très, très particulier avec lui, simplement amical, voilà.
D'accord.
Par contre, c'est dans le maelstrom total qu'on pouvait rencontrer des gens plus particuliers, avec lesquels on pouvait avoir une attirance plus particulière, voilà.
Et ça a été le cas pour toi ?
Bien sûr. La première impression de voir que j'étais dans un monde où il y avait, je te dis, cosmopolite, ouvert, et que ça m'a marqué. Ça, c'est un fait marquant dans ma perception des choses. À la fois, ça m'étonnait, ça me rassurait, j'étais content d'avoir ça. Parce que, si tu veux, l'impression générale du Sana, c'est quand même que c'était un lieu, tu pouvais penser que c'était un couvent silencieux, quand tu étais dans le calme. Où tu avais besoin de te reposer. Après, ça pouvait être assimilable à un internat bruyant, au moment des repas, par exemple. Ça pouvait être une salle de spectacle où tout le monde était dans l'attente de ce qui se passait, tu vois. Et puis, alors, ce que j'appelle, moi, la thébaïde studieuse, parce que c'était quand même là que s'est passé beaucoup de choses. Donc, tout ça était très important comme ambiance générale, ce que j'ai ressenti, quoi. Tu rentres pas là comme ça, inopinément, hein, innocemment, du moins. les journées, elles se passaient d'une façon très régulière, et par là même monotone. On peut dire ça. Alors le matin, c'était un réveil sans ménagement, on va dire, par l'infirmière de service, qui brandissait tout de suite un thermomètre, comme un sceptre, tu vois. Et qui, donc ce thermomètre était censé nous donner l'état de notre fébrilité ou pas. Et c'était un indice très important parce que si c'était grave, tu allais au purgatoire, quoi. Tu étais mis en quarantaine, on va dire. Oui, parce que ça voulait dire que tu étais contagieux, quoi. Bon. Donc voilà, alors ça, c'est après, il y avait le petit déjeuner sur place, dans la chambre, la toilette, et puis on passait la matinée dans le calme, qui lisait, faisait des petits travaux, et c'était, on nous demandait d'être calme, pas excité. Et puis dans la matinée, on pouvait être aussi appelé à la visite médicale, qui était quand même assez régulière et souvent pour savoir, on décidait du traitement, et puis on surveillait l'évolution de ta maladie, enfin de ta guérison plutôt. Alors après, il y avait après le déjeuner. Alors curieusement, moi, j'ai aucun souvenir de comment se passaient les repas. Mais après le déjeuner, on avait les soins sérieux de Kiko. Et ça, ça se passait suivant un traitement trithérapeutique.
D'accord.
Alors il y avait trois médicaments précis qu'on prenait. Je me souviens très bien du nom du PAS, c'est-à-dire un acide aminosalicylique, tu vois. On avait l'isoniazide et la streptomycine. Alors le PAS était obligatoire, tous les jours on avait une perfusion qui durait à peu près 1 heure et demie. Et puis les deux autres, elles se faisaient en fonction de ton état, et puis c'était pas journalier, quoi, c'était une ou deux fois dans la semaine peut-être. Ça durait quand même 1 heure et demie, 2 heures, quoi, les soins. Et après, on avait droit à ce qu'on appelait la galerie de cure, qui était une galerie extérieure, ouverte à tous les vents, par tous les temps. Et là, on était allongé, enveloppé dans une couverture, truc, et c'était le moment de la contemplation hypnotique de la chaîne de Beldon. Alors on contemplait cette chaîne, on avait les crêtes là qui ressemblaient bien à un sismographe, un graphique de sismographe, et qui était toujours sur un ciel limpide, magnifique. Mais c'était aussi le moment où vraiment de vacuité intellectuelle, corporelle, totale. Et ça, c'était quand même très difficile. Et je t'avoue que même encore maintenant, moi, la beauté de cette chaîne, elle est toujours un peu voilée par ce souvenir d'ennui. Bien que je reconnaisse que c'est magnifique. Hein. Alors, c'était une cure obligatoire, mais enfin, elle était effective parce que... Durant ces moments-là, quelquefois, on faisait abstraction de la chose, on allait ailleurs. Enfin bon, ça, c'était l'attitude un peu du potache là, qui essaye de ne pas faire ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Et puis alors, vers 17-18 heures, on avait droit à la récréation. Ce qui nous permettait enfin de sortir de cet engourdissement dans lequel on était, pour des raisons curatives, mais enfin bon, qui était. Et alors là, on fréquentait tout ce qui était possible. Il y avait soit la terrasse panoramique, soit les ateliers, les stands, les salles de lecture, les salles de spectacle, les salles de cours. Tu vois, il y avait donc un monde énorme dans lequel tout se croisait. Quoi. Voilà. Ça, c'était le miracle de la vie en sana d'étudiant. Si on compare les autres sanas dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le département du Rhône et des Mines, étaient habités par des ouvriers généralement plus âgés, plus abîmés par le travail ou la vie, et où les distractions et occupations étaient réduites à peu, quoi. Donc je fais la comparaison, parce que c'est quand même important de savoir qu'à côté de nous, il y avait des gens qui étaient atteints de la même maladie, mais qui ne subissaient pas ni les mêmes traitements, je pense, ni la possibilité de profiter de ce qu'on profitait nous, ce qui était vraiment exceptionnel, ce que j'appelle le miracle de cette vie en sana d'étudiant. Alors les cours, moi je peux en parler pour moi, qui était étudiant en architecture, débutant, et là j'avais pas de cours. Et comme j'avais pas de base encore assez forte de la discipline, j'étais un peu livré à moi-même. Ouais. Moi j'avais pas de cours. Par contre, il y a des copains qui étaient en droit ou en médecine, qui étaient donc plus nombreux dans le SANA, parce que c'était. Ils avaient pouvaient recevoir les cours de la fac de Grenoble par radio, comme ça, hein, tu vois, dans leur chambre. Et puis moi, j'avais donc pour m'initier à l'architecture que d'essayer d'en apprendre la théorie et l'histoire. C'est tout ce que j'avais avec les ouvrages de la bibliothèque. Pour moi, ça a été vraiment la pierre angulaire de l'édifice. Hein. La bibliothèque, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel parce qu'on y trouvait, c'était un lieu de la connaissance, de l'intelligence, et avec 30 000 volumes quand j'y étais. Et il y en a eu beaucoup plus après. Cette bibliothèque, elle a été pratiquement organisée par Roland Barthes, qui a donc codé, classé, et puis rendu accessible les volumes à ceux qui voulaient lire, quoi. Et c'est vrai que pour moi, cette bibliothèque, ça a été un havre de paix et à la fois d'effervescence intellectuelle. En fait. Les ateliers, c'était des ateliers soit de dessin, des ateliers Oui, les gens qui avaient envie de modeler, enfin tu vois, des trucs comme ça. Les salles de cours, ben, en dehors de. Il pouvait y avoir des cours, des gens qui venaient faire des conférences, les salles de lecture. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Enfin, tu vois, il y avait toutes sortes de possibilités. Puis il y avait des labos photos, il y avait des studios cinéma, enfin, tu vois. On était finalement dans une bulle, si tu veux, isolée dans l'espace. Mais quand même, on était réunis par des faisceaux d'informations qui étaient là, qui venaient de partout, qui commençaient à vibrer dès qu'on était réunis les uns les autres, quoi. On n'avait que ça, si tu veux, à faire, mais... très particulier, c'était vraiment la bulle vraiment géographiquement extérieure, et puis à l'intérieur, il se passait, on recevait toutes les informations du monde, quoi. Quand je suis arrivé au Sana, j'ai jamais su combien de temps j'allais y passer. Bon, parce que je pense que c'était une précaution que prenait le corps médical pour pas faire peur aux malades, parce que finalement c'était toujours reporté de 6 mois en 6 mois, jusqu'à 3 ans, on m'aurait annoncé ça tout de suite, ça aurait été encore un peu plus plombant pour moi, quoi. Il y en a qui, en avaient marre, quoi, de ces traitements, de cette... c'était un peu là, quand même plombant, hein, quand même, comme la ambiance. Oui, je me souviens carrément, quand on était perfusé pendant 1h30, il y en a qui arrachaient ça, qui allaient se promener parce qu'ils en avaient marre, quoi, tu vois. C'était... Ouais. Donc, mais quand même, c'était, on attendait. Et vraiment, la patience, c'était une vertu qu'il fallait avoir, hein, parce que vu les périodes d'inaction, qu'on va dire, qu'on avait dans la journée, il fallait mieux que chacun d'entre nous ait des dispositions quand même pour la méditation, pour la réflexion spéculative, pour les lectures, l'écriture, le dessin, et puis savoir faire des petits travaux manuels, tu vois. Ouais. Parce que c'était ça notre vecteur, quoi, tu vois. Okay. Et moi, je crois qu'on était des privilégiés. Hein. Médecin directeur, monsieur le docteur Hardré, qui était très sympathique. Il était entouré de médecins plus jeunes. Moi, je n'ai pas gardé un bon souvenir de celui qui s'occupait de moi. Quand le bacille de Koch résistait à tout ce qu'on mettait, tous les médicaments qu'on employait, eh bien, d'une façon générale, à l'époque, les médecins décidaient d'un protocole beaucoup plus radical. Et ça consistait à l'ablation de la partie du poumon atteinte par thoracotomie. Alors moi, j'ai vu plus d'un copain partir au bloc opératoire. Et puis quand ils revenaient et qu'ils donnaient leurs impressions, c'était vraiment... oui, c'était dur, quoi. Et moi, j'étais très circonspect par rapport à ce que je constatais, par rapport à l'efficacité de ces opérations. Tant et si bien que quand le docteur Macari, c'était celui qui me suivait, m'a dit, là, au point où vous en êtes, vous allez y passer. Il fallait obéir au diktat, quoi. Tu vois, je sentais ça quand même comme un... pas très humanisé, quoi, dans la présentation des choses. Tant et si bien que moi, quand j'ai appris ça, j'ai été mortifié. J'ai dit, je veux sursoir à la chose, et parce que moi, je cachais comme ça mon refus, si tu veux, mais enfin, bon. Et bien m'en a pris, parce que à ce moment-là, il y a eu la visite des prêtres de la discipline qui sont passés, comme ils faisaient assez régulièrement, tous les 6 mois, par exemple. Il y avait des médecins chevronnés de Paris qui descendaient, et quand mon cas a été examiné, il a été décidé peut-être en effet qu'il fallait peut-être sursoir et qu'on supprimerait un des médicaments qui semblait être pas très... avec des conséquences qui pouvaient avoir de continuer à entretenir ma caverne, comme on disait, c'est-à-dire parce que les séquelles, c'est que tu as quand même le thorax qui est ouvert, quoi, tu vois, qui est abîmé. Donc voilà, la relation avec les médecins, c'était une relation quand même un peu de... Non, on les respectait, c'était. Hein, mais quand même, on n'était pas forcément copains avec eux. Enfin, c'était pas un lien. Alors après, il y avait les relations avec le personnel du truc. Alors, c'était pas. On va dire que c'était plutôt. C'était un lien de connivence plutôt que de relation, on va dire. Hein. Bon, c'était le petit mot gentil à l'infirmière préférée, quoi, tu vois, ou bien l'échange de service avec Napo, enfin on l'appelait Napo, il s'appelait Napoléon, qui était le factotum, qui était un type très sympa, qui habitait Saint-Hilaire. Avait aussi la relation avec les autres, moi je vais dire entre guillemets, détenus des autres Sana. C'était vraiment comme ça que moi je percevais, qu'on les percevait, quoi. Et là, les autorités médicales mettaient des distances quand même, soit parce qu'on n'avait pas le même traitement, enfin je veux dire le traitement comme je viens de t'en parler, c'était moins convivial, hein, les autres Sana. Ouais. Et puis peut-être aussi. Une incompatibilité sociale, on va dire, comme ça. Toujours est-il que moi, je me souviens de tournois d'échecs qu'on faisait avec des pensionnaires polonais des mines, que ça devait être des anciens mineurs de fond, à mon avis, et qui, étant polonais, avaient la coutume, enfin, c'était dans leur pays, de jouer aux échecs.
Ouais.
Alors, quand on faisait des tournois, ça, c'était important. Et je me souviens que l'un d'eux avait triomphé du vice-champion national du tournoi étudiant de l'année, qui était parmi nous. Et cet événement avait quand même été très commenté dans les couloirs, parce que finalement, on mettait en cause la suprématie des intellectuels dans un jeu d'esprit. Et ça, c'est une leçon que j'ai bien gardée, quoi. Les seules sorties qu'on faisait, c'est quand bon, on prenait, je sais pas, on devait demander une autorisation, je me souviens plus comment ça se faisait, mais on partait à deux ou trois copains se balader dans la dent de crawl, mais enfin, on montait 100 mètres au-dessus, puis voilà, hein, puis on rigolait bien, quoi, c'est tout. J'ai des anecdotes assez, enfin je peux en parler, hein, d'un truc complètement fou, c'est que, par exemple, tu sais peut-être que Blaise Pascal, il a eu une nuit mythique, mythologique, je sais pas comment dire, mystique plutôt, et où il a eu la révélation que sa croyance en Dieu, de sa croyance en Dieu. Et moi, j'ai eu une nuit aussi comme elle. Je m'étais réfugié dans les combles du Sana, clandestinement, la nuit. Et là, j'ai eu une espèce de révélation, pas divine, mais spirituelle, on va dire, une espèce de satori, quoi, tu vois. Je m'en marre encore, mais c'était un peu justement l'ambiance dans laquelle je m'étais un peu enfermé. Et puis, il y avait aussi, à mon avis, les effets délirants de la streptomycine, qui était une drogue, enfin, qui te faisait un petit peu. C'était pas le cannabis, mais enfin, ça t'aidait un peu comme ça. Voilà. Alors après, dans les moments dont je t'ai parlé, où on se réunissait, eh ben on parlait de tout ça, on échangeait, voilà. Je parle des faisceaux d'informations, mais en 56, 7 et 8, on était en pleine guerre d'Algérie. Donc tu imagines un peu l'effervescence que ça entraînait dans nos discussions, discussions un peu hardes, forcément. Sauf que on s'adressait à des jeunes personnes, en âge d'aller sous les drapeaux, sauf qu'on ne pouvait pas y aller, puisqu'on était malade et que l'armée française ne voulait pas d'où. On l'aurait contaminé, sans doute. Ouais. Et donc, tout ça nous mettait en effervescence. Et si tu veux, on avait aussi des distractions qui nous permettaient aussi de nous calmer quand même. Hein.
Parce que vous receviez les informations via la radio, j'imagine.
Via la radio, bien sûr, et puis on avait des conférenciers qui venaient.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc ça, c'était extraordinaire, ça aussi. Je crois qu'à l'origine, il y a eu un docteur qui s'appelait le docteur Douali, qui a été le premier médecin qui avait une... Oui, qui était favorable à cette mise en ordre des choses, comme ça. Donc il a beaucoup fait pour que ça se passe comme ça.
C'est ça.
Donc ça, c'était important. Du coup, c'est resté aussi dans les... Et puis, dès qu'on faisait appel à quelqu'un, un écrivain, un philosophe, un conférencier, il répondait très favorablement. Et puis, bon, il y avait des tas de gags hein, qui en faisaient. Je me souviens d'un gag parce que d'un copain qui s'était grimé, un vieux professeur, mais il n'était pas reconnu, évidemment, et il nous avait fait croire pendant, je ne sais pas, une heure ou deux heures, il nous avait fait une conférence complètement bidon, où il se moquait de ses maîtres savants et tout ça. Et c'était drôle, et quand ça a été vraiment le canular, quoi. Tu vois, on entretenait aussi une ambiance de canular. Et puis alors, il y avait quand même aussi le fait quand même qu'on était jeunes et que forcément, les sirènes du désir amoureux, ça commençait à siffler aussi. Hein. C'était quand même un sana mixte. Alors, les filles étaient logées dans un pavillon annexe. C'était pas dans la maison mère, où il n'y avait que les garçons. C'était un pavillon indépendant, mais relié par un passage souterrain. Et au moment des rencontres dont je t'ai parlé, des fins de journée, les filles venaient, les garçons. Donc forcément, il y a eu des rencontres qui allaient jusqu'à l'idylle, si on peut dire. Ça, c'était comme partout ailleurs, finalement, on vivait ça. Et puis sur le, disons, l'acte qui n'était pas encouragé par le corps médical, il ne fallait pas qu'on se fatigue, il avait quand même lieu, qu'on le veuille ou non, mais dans des conditions, on va dire, clandestines, inconfortables, frustrantes, tant et si bien qu'on pouvait, on aurait pu écrire un bouquin de la misère sexuelle en milieu étudiant, on aurait pu faire. Ça a été repris après, hein, en 68, tu vois. On aurait pu l'écrire avant. Moi, j'ai appris après, hein, je ne le savais pas quand on y était, mais le sana a servi de refuge pendant la guerre aux juifs, à des gens qui voulaient fuir le STO. Enfin, moi, ça me parle, ma génération est plus sensible à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on s'en moque. Donc, je trouve que ça a servi aussi, tu vois. Ça m'étonne pas, c'est une forteresse. En même temps, je ressens ça comme une forteresse. C'est un truc qui a servi de savoir que dans les sana, il y a eu ça. C'est bien, quoi. C'est intéressant. Je te parle beaucoup de Roland Barthes. On le suivait puisqu'on savait qui ça avait été, qu'est-ce qu'il avait fait. Ouais. Et si tu veux, j'aime bien le citer. Et quelquefois, dans ce que j'ai lu de lui après, hein, il a donc écrit une fois que la tuberculose, c'est un genre de vie, c'est un véritable genre de vie et un mode d'existence. Et il dit, je dirais presque un choix. Alors, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un choix, mais autrement, je suis son analyse. Il a dit, je suis tombé tuberculeux, alors il dit, psychanalyse facile, mais sans doute pour fuir ma famille et les dangers au moment où il y était, c'était en 42-45. Donc il parle aussi du climat qu'il y avait dans le pays. D'ailleurs, il avait dit qu'avant d'être en sana, il n'avait jamais écrit. Enfin, qu'il n'avait rien d'écrit d'important. Donc après, moi, j'ai fait la liste de tous les écrivains qui ont pu passer. Il y a eu François Furet, qui était un grand historien. Il y avait François Châtelet, qui était un grand philosophe. Ils ont été au sana des étudiants, bien avant moi, bien sûr. Ouais. Et donc, je ne savais pas qu'ils y étaient venus, hein, il ne faut pas non plus. Sauf que j'allais voir les noms sur les registres. Je ne sais pas si on l'a gardé, mais il y avait un livre d'or, quoi, tu vois, où tous les gens qui sont passés, on leur a demandé, évidemment, des dédicaces, C'est le manque de vision. visite ne me troublait pas outre mesure, parce que, si tu veux, je savais bien que c'était pas la visite de mes parents, avec une mère éplorée, un père inquiet, qui cachait mal de désarroi, parce que je les connaissais quand même pas mal, mes parents. Je préférais pas tellement qu'ils viennent me voir. Moi, j'avais la correspondance épistolaire, enfin, qui suffisait à exprimer mon amour pour mes parents. Je n'avais pas besoin d'aller voir pour ça. Je ne pense pas que ça m'aurait aidé, quoi.
Voilà. D'accord.
Donc, oui. Je ne souffrais pas de cette absence. Et puis surtout, quand même, j'ai oublié un truc important, c'est qu'en descendant du Sana, on avait encore une autre... Je ne vais pas t'en parler, puisque ce n'est plus les Sana, mais c'est ce qu'on appelle la post-cure. C'est-à-dire, c'est une étape transitoire. Quand tu descends du Sana, le post-secure, il avait lieu à Grenoble. C'était une étape transitoire, mais importante, pour faire le passage du Sana vers la nouvelle vie. Enfin, tu reprenais ta vie. Et ça, c'était un moment très, très, très éprouvant pour moi, parce que très difficile, quoi. Cette reprise là-dedans, tu vois, elle a été dure. Pendant 3 ans, tu restes dans une bulle absolument extérieure, tu vois, loin de tout. C'est une autre planète. Et puis tout d'un coup, pouf, tu retombes dans la vie normale, quoi. Et ça, c'est comme un hôtel, si tu veux, où tu dors là et tu passes ta journée là. Quoi. Enfin, mais tu vas, par exemple, j'étais en post-cure à Grenoble, donc j'ai suivi l'année préparatoire, l'admission à l'école des Beaux-Arts. Reprendre la vie active, c'était... On n'était pas très armés, hein, comme je te l'ai dit, pendant 3 ans, tu es inactif, quoi. Donc, tu vois, on ne t'entraînait pas du tout musculairement, tu perdais complètement de... Moi, je trouve que ça, c'était une grosse lacune, mais enfin, bon... Ouais. On avait peut-être guéri sur le plan purement médical, mais on n'était pas du tout... On s'était pas entretenu, quoi, physiquement. En 3 ans, le monde que tu avais laissé a évolué et changé. Toi-même, tu as changé. Et du coup, de se retrouver comme si rien ne s'était passé, ouais. Ça, c'était dur à... C'était dur pour moi, ça. On parlait des bâtiments actuels, là, de l'état dans lequel on les a laissés, qui sont en ruine, qui ont été livrés au vandalisme et tout ça. Moi, ça m'afflige, quoi. Je trouve que c'est pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire de ces bâtiments. C'est peut-être plus.
Ils voulaient démolir.
Moi, je trouve qu'on ne prend pas en considération les gens que ça peut affecter. J'ai presque plus souffert, moi, de l'avoir dilapidé les volumes de la bibliothèque. Ouais. La découpe, tu vois, on l'a bradé, quoi. Parce que c'était quand même quelque chose de 30, 50 000 volumes, je crois qu'à la fin, c'était, ouais. C'est pas rien. Bon, moi, j'ai trouvé ça un peu dur, quoi, parce que ça m'a aidé à vivre, là. Le coût de la démolition, c'est énorme, forcément, c'est énorme, ça va coûter très cher. Les conditions financières, pécuniaires, tout de suite, ça c'est ce qu'on met en avant, mais bon, il faudrait quand même penser les choses autrement, quoi. On peut comprendre qu'il y a des gens qui sont affectés par cet abandon, tout ça, et ça, on devrait peut-être en tenir compte, surtout les gens du pays, quand même, hein. Ah oui, Thomas Mann, la montagne magique. Je n'y fais pas référence, mais quand tu regardes des belles donnes, la montagne magique apparaissait, quoi, tu vois. Mais t'es pas si magique que ça, à mon avis.
Écoutez à l'époque des paquebots 2 fois par mois sur les ondes, 89 et 87.8 FM. Vous pourrez également écouter et réécouter ces émissions en podcast. Connaître les dates de diffusion en vous rendant sur le site internet de Radio Grésivaudan www.radio-grésivaudan.org.